Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le dimanche du bon pasteur. C'est un titre que le Seigneur se donne lui-même. C'est pas compliqué comme ça. C'est moi, le bon pasteur, dit-il. Le bon pasteur, c'est une image habituelle, même si elle a peut-être du mal à nous parler immédiatement. Il n'y a plus beaucoup, aujourd'hui en tout cas personne d'entre nous, je pense, qui ait l'expérience de garder des troupeaux de brebis. Mais cette image a été tellement utilisée dans l'Église depuis 2000 ans que nous nous sommes approchés de sa compréhension intérieure. Et nous savons que le Christ est celui qui nous tient ensemble, le bon pasteur, le vrai prêtre, celui qui nous sauve et nous garde en Dieu. Alors évidemment, aujourd'hui nous prions pour les vocations, c'est-à-dire pour ceux qui vont s'agréger à cette figure du bon pasteur, qui vont même y être configurés, comme le dit Jean-Paul II, comme le dit la théologie en général, au sujet des prêtres. Je voudrais tout d'abord, très exceptionnellement, mon plan est en trois parties, mais tout arrive dans la vie, vous parler de la vocation universelle à la sainteté en rapport avec le sacerdoce, pour ensuite, dans un deuxième temps, vous parler du célibat apostolique et du sacerdoce, car beaucoup de choses ont été dites ces derniers temps, notamment dans les moyens de communication modernes, et beaucoup de bêtises, alors il est bon de se redire les choses clairement. Et puis dans un troisième temps, le don total de sa vie dans ce célibat apostolique. Tout d'abord, la vocation universelle à la sainteté en rapport avec le sacerdoce. Il faut bien vous dire, évidemment, si nous prions aujourd'hui pour les vocations, nous prions pour les vocations sacerdotales. Mais l'Église est bien persuadée, et depuis toujours, que nous avons tous une vocation essentielle. Vocation veut dire être appelé, vocare en latin. Nous sommes appelés, vous êtes appelés à quoi ? À Dieu. Vous êtes appelés à vivre en Dieu, à vivre de Dieu. Vous êtes appelés à la béatitude. C'est ce qu'on appelle la vocation universelle à la sainteté, rappelée de manière très évidente et profonde par le dernier concile du Vatican. Non pas que ce soit une nouveauté dans l'Église, on l'a toujours cru, mais peut-être, en certains temps, on a pu l'oublier, penser que les grands saints, c'était les moines, ermites de préférence, et puis ensuite, peut-être les prêtres et les religieuses, et puis après, s'il restait encore un peu de grâce, éventuellement les laïcs mariés pourraient être saints. Alors, pour s'enlever cette fausse idée de la tête, eh bien, le Concile a rappelé avec fermeté, nous sommes tous appelés à la sainteté. Mais alors, quelle est la différence ? Sommes-nous tous prêtres ? Eh bien, non. D'abord, le seul prêtre, c'est le Christ. Et certains vont être configurés à lui dans son caractère sacerdotal. Car notre vocation, elle vient d'abord de la nature. Nous sommes dans ce monde, tous, et naturellement, nous sommes appelés, normalement, à nous marier. Ce n'est pas ce que tout le monde va faire, mais c'est l'appel naturel. L'appel à s'unir entre un homme et une femme et à engendrer. Et cette vocation, sauf problème particulier, tout arrive dans la vie, normalement, tout le monde la reçoit. Ça vient de la nature. Et il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se marier, pour vivre ensemble et engendrer et faire ça même saintement. C'est donc une vocation naturelle que le mariage. Mais voilà, la plupart d'entre vous, ceux qui se marient, eh bien, vont exaucer cette vocation, car non content d'être des hommes, vous êtes aussi des enfants de Dieu qui vont vers lui, et donc vous avez un chemin surnaturel. Et pour la plupart, ceux qui se marient, eh bien, cette vocation naturelle du mariage va s'exaucer dans un sacrement qui devient une vocation surnaturelle. C'est donc que de la nature, vous arrivez à la grâce et donc à un chemin vers Dieu dans le mariage. Mais voilà certains, ceux qui vont vivre du célibat apostolique, ne vont pas se marier. Alors il n'y a pas que les prêtres. Bien sûr, on pense aux prêtres et aujourd'hui c'est la journée des vocations dans l'Église. Il y a les prêtres, il y a les religieux et les religieuses qui vivent ce célibat pour le royaume de Dieu. Et puis il y a aussi tous ceux qui sont célibataires et qui dans leur cœur se sont consacrés à Dieu, ont décidé, choisi à un moment ou à un autre, plus ou moins clairement, d'offrir cet état de vie qui est le leur, pour en faire un chemin vers Dieu. Vous voyez, il n'y a pas une case ou deux cases à remplir, il y a la multitude des vocations qui se diffractent dans différents modes de vie, mais l'un est ordonné à l'autre. C'est le grand enseignement, là pour le coup, peut-être un peu plus original du Concile Vatican II, qui a voulu dire, mais ce n'est pas parce que tout le monde est appelé à la sainteté, et alors, les prêtres, pourquoi sont-ils prêtres finalement, si tout le monde peut être appelé à la sainteté? Est-ce qu'on a encore besoin des prêtres? Oui, parce que ce que le prêtre signifie, c'est l'offrande de cette vie, normale et naturelle, et bonne, pour signifier à l'Église son lien spirituel à Dieu. Voilà ce que moi j'apporte à toute vocation. C'est-à-dire que ma vocation comme prêtre n'est pas d'abord pour moi. Il n'y a pas longtemps, je rencontrais un jeune homme qui se pose cette question, et c'est magnifique, suis-je appelé à être prêtre? Et qui me dit finalement, voilà, c'est quand même d'abord pour moi. Non, moi je n'ai pas besoin d'être prêtre. Alors, ça devient mon chemin, donc j'en ai besoin en un sens. Mais essentiellement, on n'a pas besoin de devenir prêtre pour devenir saint. On l'a déjà dit. En revanche, c'est l'Église qui a besoin de prêtres pour être sainte. C'est-à-dire pour être menée dans l'Eucharistie au Christ. C'est-à-dire que ma vocation est pour vous, pas pour moi. Elle est pour que l'Église progresse vers Dieu. Voilà pourquoi j'ai ce statut tout particulier qui me met un peu à part. Et il y en a que ça chagrine, mais j'en suis désolé. C'est pour ça que je suis habillé bizarrement, c'est pour ça que je vis bizarrement, je vis célibataire, je vis dans un presbytère, je vis de vos dons. Bref, autant de choses bizarres qui signifient que j'ai une vie particulière. Mais cette vie, elle est pour vous, et voilà pourquoi les prêtres d'ailleurs mènent au mariage. Ce n'est pas d'ordre naturel. Ce n'est pas pour enseigner aux gens, d'ailleurs ils n'ont pas besoin de moi, pour enseigner comment il faut se rencontrer, comment il faut s'aimer, comment il faut vivre ensemble, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Ce dont ils ont besoin, c'est que je leur signifie par ma vie ce don à Dieu, dont évidemment vous voulez vivre, car vous êtes des hommes, mais vous êtes aussi et surtout des enfants de Dieu qui vont vers lui. C'était mon premier point, le plus compliqué théologiquement peut-être, mais le plus important, la vocation universelle à la sainteté et la vocation au sacerdoce se conjoignent, ont été ordonnés l'un à l'autre, mais ne sont pas similaires. Alors le célibat, voyons cette question du célibat, car aujourd'hui, vous le savez, il est discuté. C'est une vieille question. Chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, qui sont nous en sommes les héritiers, les prêtres, les Lévites, étaient mariés. Mais on avait tout de même l'idée que quand on est prêtre, quand on exerce sa fonction de prêtre, on ne vit plus avec sa famille. Ainsi, en fait, ils exerçaient leur sacerdoce 3 mois par an, par tour de tirage au sort, comme Zacharie qui est dans le temple, et pendant 3 mois, ils vivaient dans le temple, c'est-à-dire hors de leur famille. Les Juifs avaient déjà l'idée que ce service sacerdotal les mettait hors du monde. Et le premier Juif prêtre célibataire, c'est pas le Christ, c'est Jean le Baptiste. C'est lui le premier, lui qui est d'une famille sacerdotale et par son père et par sa mère, un vrai Lévite, qui se consacre à Dieu puisqu'il prêche uniquement. Et il ne se marie pas, il va au désert, il inaugure la venue du Christ, il est le précurseur. Et il faut bien le dire, si les prêtres sont célibataires, c'est parce que le Christ a vécu de cette vie. Vous savez, ça aurait pu être autrement, hein. Le Christ aurait très bien pu se marier, j'en sais rien. Ça aurait pas été une catastrophe, hein, on nous l'aurait dit. Toujours des gens qui cherchent des secrets qui n'existent pas. Bon, eh bien le Christ a voulu vivre une consécration totale, un don total à ses brebis. Alors dans l'Église, on a hésité pendant un temps, c'est vrai. Parfois vous entendrez des gens dire « Oh oui, mais le célibat c'est une invention un peu moderne, etc. » Oh oui, c'est moderne. Ça date du Christ et ça a été définitivement établi au IVe siècle, dans l'Église latine. Parce qu'il est vrai que pendant 4 siècles, eh bien, on s'est demandé comment faire. Et l'Église d'Orient n'a pas suivi la même règle que l'Église d'Occident. C'est-à-dire aussi que, parce que ceux qui étaient ordonnés prêtres, on leur demandait de vivre avec leur épouse, quand ils étaient mariés, comme frères et sœurs. Alors on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas continuer à prendre des prêtres parmi les gens mariés et les obliger à ne plus vivre une vie de mari et de femme. Alors l'Église latine et l'Église d'Orient ont fait différemment. L'Église d'Occident, l'Église d'Orient, pardon, s'est dit, on va conserver des prêtres qui sont mariés et puis des prêtres célibataires. Mais bien sûr, les évêques ne sont tirés que des célibataires, parce que l'évêque, c'est l'image parfaite de la configuration au Christ, il ne peut pas avoir une autre consécration, il ne peut pas être marié. Et c'est encore ce dont vivent les églises orientales catholiques et l'église orthodoxe. Eh bien, il y a 2 clergés, un clergé célibataire, c'est souvent des moines, et un clergé marié, et il est évident que ce n'est pas le même degré d'implication, ce n'est pas la même chose. En Occident, nous avons décidé, à partir du IVe siècle, de manière définitive, de n'ordonner que des célibataires. Or, une fois qu'on est ordonné, on ne peut plus changer. On peut toujours, comme dans l'Église orientale, ordonner un prêtre marié, mais on ne peut jamais marier un prêtre. Même les diacres permanents, c'est le même, ce n'est pas le sacerdoce, mais c'est un degré de l'ordre. Eh bien, les diacres permanents de nos jours, ils sont choisis plutôt parmi les gens plus mûrs, entre 40 et 60 ans. Quand ils sont ordonnés, s'ils sont ordonnés célibataires, ils ne peuvent plus se marier. S'ils sont ordonnés mariés, ils restent mariés. Mais s'ils deviennent veufs, ils ne peuvent pas se remarier. Cette consécration est un don qui n'appelle pas un autre don, mais une dévotion. Voilà, ça c'était pour le petit point d'histoire, car il est important de se rendre compte que c'est ce dont nous vivons depuis plus de 16 siècles de manière définitive, et en fait depuis le début de l'Église, en tout cas, ce célibat. Mon dernier point sera, quelle est son utilité ? Quel est ce don total dont nous voulons vivre ? Eh bien, c'est un don sacrificiel. Il ne faut pas vous étonner, mes bien chers frères, qu'aujourd'hui, il soit battu en brèche. Car évidemment, on préférerait de beaucoup que je m'habille comme tout le monde, que j'aie une femme comme tout le monde, et des enfants comme tout le monde. Cela serait beaucoup plus humain. Très humain peut-être. On me demande souvent, vous le savez, je suis entré au séminaire assez tard, à 34 ans, et on me pose souvent la question de manière biaisée, pas par mauvaise foi, mais disant, mais oh, alors vous avez arrêté d'être avocat pour devenir prêtre. Non, ce n'est pas la même chose. C'est comme si on vous demandait, alors, vous avez arrêté votre métier pour épouser Madame Intel. Mais ce n'est pas de cet ordre-là. Il y a le métier, il y a l'occupation de ce monde, elle est bonne, et moi j'aimais énormément mon métier. Et puis il y a la donation de sa vie, c'est pas du même ordre. Et la donation de votre vie, elle passe tout, elle exige tous les sacrifices. Parce que, en devenant prêtre, eh bien, on m'a aussi donné un métier, un job à faire. Mais ce sont 2 choses différentes. Je suis prêtre quoi qu'il arrive. En ce moment, je suis curé de Saint-Roch. Demain, autre chose, l'Église me donnera une autre mission, un autre métier. Mais essentiellement, je suis prêtre. Vous avez un état de vie. Ceux qui sont mariés, ceux qui sont père ou mère de famille, eh bien, c'est leur état de vie. Ceux qui vivent leur célibat aussi. Après, au-delà de cet état de vie, vous avez une occupation. Vous faites quelque chose, vous vous rendez utile. Mais c'est pas la même chose. La donation de toute une vie n'est pas juste une occupation, n'est pas juste un métier, c'est une oblation. Alors cette oblation est totale, elle est de tous les jours, elle est de toutes les heures. Voilà pourquoi on loge les prêtres à côté des églises. Je ne viens pas au bureau, je ne viens pas bosser tous les jours, je suis tous les jours là. parce que je suis tous les jours à cette donation totale. Priez, mes bien chers frères, priez pour que l'Église ne manque jamais de cette donation totale, spirituelle, incroyable, qui a fait naître un nombre incroyable de saints et qui a soutenu l'Église. Ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas attraper par de fallacieux arguments. Si le fait d'avoir des prêtres mariés donnait des vocations, les protestants le sauraient. Eux qui ont beaucoup moins de vocations que l'Église catholique. Ne vous laissez pas embobiner. La grâce qui nous est faite, qui n'est pas facile à vivre, qu'il faut accompagner, qui est un don et un sacrifice, ce n'est pas dans l'ordre du facile. C'est malgré tout un trésor inestimable. Il vous faut aimer le sacerdoce. C'est ainsi que vous serez vous-même du Christ, en aimant profondément vos prêtres, parce que c'est vous qui les faites. Amen.